Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média en ce premier jour de l'automne, comme l'a dit Anissa au menu. Médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. C'est vendredi, on va retrouver l'actualité et les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic, journal L'Équipe. Et puis on va parler gastronomie avec Laurent Mariotte. On est ensemble pour deux heures en direct. On est ensemble, je le prononce bien. Et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque de l'émission sur Europe1.fr. Nos invités, un sacré duo. Léa Salamé et Christophe Dechavanne, ils vont occuper à partir de demain soir la case mythique de la deuxième partie de soirée sur France 2, après Ardisson et après Ruquier. Ça va s'appeler Quelle époque ? Et leur premier invité sera Jean-Luc Mélenchon, oui. Enfin, l'animatrice Daphné Burki en deuxième heure. Daphné Burki qui a cartonné tout l'été dans le concours de Drag Queen, elle était jurée. Elle arrive dans une série de France 5, Cher Tendre, une série sur l'intersexuation. Qu'est-ce que c'est ? Des gens qui ne sont ni vraiment filles, ni vraiment garçons, et en même temps les deux. On estime qu'il y a autant de personnes intersexes en France que de roues. Nous recevrons également la jeune comédienne qui porte ce personnage. Elle s'appelle Angèle Metzger. À mon avis, on va beaucoup, beaucoup parler d'elle encore à l'avenir. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Luce Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Eh bien, la suite ce matin encore du conflit Canal Plus TF1 avec une première décision de justice qui est tombée hier. Dans l'actualité aussi, une petite révolution dans le monde des magazines télé et de la presse régionale. Cette fois, je vous en parle. Hier, on n'avait pas eu le temps. Et puis, on parlera aussi des 10 ans du Parisien Week-end. On vous dévoile quelques changements à venir. Et en fin de journal, on tente d'analyser le succès croissant de la série Astrid et Raphaël.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium.
Oh bah sans surprise, oui, c'est le foot hein, également. Oui, exactement, sur M6, France-Autriche, 4 830 000 téléspectateurs hier soir, 22,7% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec son téléfilm Un mensonge oublié, 2 880 000 téléspectateurs, 13,7% de part d'audience. Et puis troisième, c'est là aussi un téléfilm, la première réalisation d'Alexandre Lamy dont je vous parlais hier, ouais. 2 700 000 téléspectateurs, 14% de part d'audience devant TF1.
Europe 1, le journal des médias.
TF1 qui diffusera le prochain match de l'équipe de France. Je parle de ça parce qu'on revient sur le conflit TF1-Canal+. Décision de justice qui est tombée hier. Canal+, n'est pas obligé de rétablir la diffusion par satellite des chaînes du groupe TF1.
Oui, ce qui veut dire que le tribunal a donc débouté la demande de TF1. Le groupe voulait que Canal+, rétablisse la diffusion de ses chaînes. Sur l'offre satellite, c'est celle qui permet aux zones blanches de recevoir la télévision, car depuis le 1er septembre, ces foyers sont totalement privés de TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Ça concerne 2 millions de personnes. Pour rappel, donc, TF1 et Canal+, sont en conflit hein, depuis la fin de leur contrat de diffusion. Et donc Canal+, a coupé la diffusion des chaînes car il estime que TF1 demande trop d'argent pour le renouvellement du contrat. TF1 avait eu donc recours à un référé, c'est une procédure judiciaire en urgence pour tenter d'obliger Canal+, à rétablir le signal pour une partie de ses abonnés, hein, ceux dont je viens de vous parler, ceux qui captent la télévision uniquement via le satellite et qui ne peuvent donc plus regarder les chaînes de TF1 uniquement via Canal+. Mais selon le tribunal, cette situation n'entraînerait ni trouble illicite, ni dommage imminent. Et puis la diffusion pour ses clients via le satellite ne représente qu'une partie du contrat de diffusion entre TF1 et Canal+. Donc, toujours selon le tribunal, TF1 ne peut pas invoquer cette rupture brutale des relations commerciales juste pour ses clients-là. TF1 a annoncé faire appel. Canal+, lui, s'est félicité de la décision du tribunal dans un communiqué de presse. Il en appelle aussi au sens des responsabilités du groupe TF1 pour assurer le respect de ses propres obligations de diffusion, écrit Canal+. Et puis il dit s'engager à reprendre la diffusion de ses chaînes gratuites de la TNT pour l'ensemble de ses abonnés, mais dès lors que TF1 l'y autorisera gratuitement.
Et on parlera de ce sujet de diffusion, notamment du sport, avec Sacha Nokovic dans quelques minutes. Du côté de la presse écrite, un nouveau magazine télé va faire son apparition dans les kiosques.
Oui, aujourd'hui, quand vous achetez un journal de presse quotidienne régionale en fin de semaine comme aujourd'hui, mettons au hasard Ouest-France si vous habitez à Rennes, vous avez le TV Magazine qui est glissé avec. TV Magazine, fabriqué actuellement par Le Figaro, eh bien ce ne sera bientôt plus le cas. À la place, vous trouverez Diverto, c'est un nouveau magazine fabriqué grâce à 53 journaux de presse quotidienne régionale qui s'unissent. Ils s'unissent pour partager les coûts de fabrication, le papier, les salaires de l'équipe, les campagnes de communication, etc. Et puis évidemment, ils se partageront les recettes du magazine. Dans le détail, Diverto proposera les traditionnels programmes télé, mais aussi des sélections de programmes sur les plateformes, qu'elles soient américaines ou françaises. Et puis en plus, plus du magazine, une offre numérique va être lancée avec une promesse deux fois plus de contenu que dans la version papier. Des podcasts, des vidéos, des newsletters, tout ça sera lancé début janvier 2023.
On reste du côté de la presse écrite. Le Parisien Week-end fête ses 10 ans et se renouvelle.
Oui, il fête ses 10 ans avec une photo en première page, celle d'une quarantaine de personnalités qui ont déjà fait la une du magazine depuis sa création ou qui pourraient la faire. Des personnalités très différentes. Je peux vous en citer quelques-unes. Elisabeth Badinter, Hugo Clément, Amélie Nothomb, Bernard Cazeneuve, Daphné Burki, Xavier Niel, Nicolas Canteloup, entre autres. À l'image de ce magazine qui dit vouloir donner la parole à tout le monde, Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions du Parisien et du Parisien Week-end.
C'est un magazine qui doit, chaque fin de semaine, le vendredi, étonner, surprendre, faire découvrir, raconter des histoires, interroger des personnages, avoir un regard décalé, mettre en avant des initiatives. Et moi, j'aime bien dire que c'est un magazine qui doit s'intéresser à tout ce qui se passe. Je dis toujours du bout de la rue au bout du monde.
Et dès la semaine prochaine, vous pourrez constater aussi quelques changements dans le Parisien Week-end, changements que Nicolas Charbonneau dévoile pour Culture Média.
Des choses autour du numérique, bien sûr, des rendez-vous autour de ce qui me paraît, on en est convaincu à la rédaction du Parisien, tellement important autour de l'environnement, de la Terre, de la planète. Donc on aura une double page chaque semaine avec des vrais rendez-vous. Il faut qu'on décrypte les images. Une photo, elle a du sens, mais il faut qu'on puisse donner des clés pour la comprendre. On donnera plus de place encore au livre, à la littérature. Des entretiens aussi, des personnalités qui peuvent se confier, des personnalités à la fois célèbres et aussi des personnalités totalement anonymes, mais qui vivent l'information qui la vivent, qui la font, qui la subissent aussi parfois.
Tous ces changements arriveront dans le numéro de la semaine prochaine. Pour l'instant, celui de cette semaine, c'est le numéro anniversaire des 10 ans et qui est en kiosque dès aujourd'hui.
Avec la photo des 40. Suite de l'actualité média avec deux infos en bref, Louise.
BFM va avoir une nouvelle déclinaison locale en Normandie. On connaît désormais la date de lancement. BFM Normandie verra le jour la semaine prochaine, le 28 septembre à 17h. C'est la 10e chaîne de BFM Région. Et puis, autre lancement dans un tout autre genre, le groupe Marie-Claire vient de créer un espace web consacré au sport féminin, les femmes et le sport. C'est un espace qui réunit des articles de 4 rédactions du groupe, Marie-Claire, Cosmopolitain, Magique Maman et Styliste, avec chacune leur spécialité, hein, sport engagé, coaching, sport pour les futures ou jeunes mamans, ou bien encore tendance dans le sport. Et puis il y aura aussi évidemment des articles et des événements autour des JO de Paris, hein, qui arrivent très bientôt dès 2024. C'est à retrouver sur lesfemmeselesport.fr.
Et pour finir, Louise, vous vouliez également tenter d'analyser le succès de la série Astrid et Raphaël.
Oui, c'est cette série policière de France 2 diffusée le vendredi soir. Elle met en scène un duo qui résout des enquêtes, une flic et une autiste Asperger qui travaillent au service des archives judiciaires de la police. Tous les lundis matins, quand je vous donne les audiences dans ce journal, les audiences du week-end, je vous parle de cette série qui dépasse ou qui avoisine systématiquement les 5 millions de téléspectateurs le vendredi soir sur France 2, qui écrase toute la concurrence. Non seulement c'est une très bonne audience, mais c'est aussi une audience qui, certes, sur certains épisodes, progresse par rapport aux deux premières saisons, ce qui est rare. D'habitude, les audiences des séries s'érodent au fil des saisons. Alors, outre que les audiences de TF1 sont impactées, il faut le rappeler, par la coupure de Canal+, on ne peut pas nier l'engouement qui existe autour d'Astrid et Raphaël. Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ces nouveaux épisodes ? Eh bien, j'ai demandé à quelqu'un qui est bien placé pour tenter de le comprendre, le producteur de la série, Jean-Sébastien Bouillot.
Nous, on est persuadés de faire une série qui est ludique et qui fonctionne. On se dit que ce qu'on a mis en place a bien fonctionné. Mais il n'y a pas une explication rationnelle à ça. Alors après, nous, on a quand même quelques explications. Cette saison 3, elle avait une particularité, c'est qu'elle était un peu l'aboutissement émotionnel de beaucoup de choses chez les personnages, notamment des deux histoires d'amour des deux personnages. C'est des histoires très touchantes. Je pense que c'est une vraie explication. Enfin, nous, en tout cas, on se dit que plus on va vers l'émotionnel et plus les personnages sont ancrés dans le public et plus ils sont touchés par ça. Et comme c'est en plus des histoires d'amour assez atypiques, ça a touché le public.
Et la saison 4 est déjà en cours de tournage en France et à l'étranger. La série est diffusée dans de nombreux pays, une vingtaine, et elle vient d'être achetée aussi par le Japon.
Ils vont la doubler en japonais et ils vont faire une enquête avec un duo japonais de comédiennes japonaises.
Non, alors c'est pas le format qui est acheté, c'est vraiment la série française qui est diffusée, j'imagine doublée, ou peut-être avec des sous-titres, mais en tout cas...
Oui, j'imagine doublée, parce qu'en français, diffusée à Tokyo, l'audience ne va pas être au rendez-vous. rendez-vous.
Non, mais avec des sous-titres.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos en français à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription, elle est gratuite. C'est sur europe1.fr, à Tokyo et ailleurs. À lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À lundi, bon week-end. Et bon week-end. Sans doute avec encore un succès d'audience d'Astrid et Raphaël.
On verra ça lundi. Dans un instant, c'est notre info média du jour. Nous serons avec Léa Salamé et Christophe de Chavannes. Oui, ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont incarner la nouvelle case mythique du samedi soir, la deuxième partie de soirée de France 2, après Ardisson, après Ruquier. Ça va s'appeler Quelle époque ? Ils arrivent dans ces studios. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, on vous a connu à la télé sur iTélé, puis Laurent Ruquier vous a appelé à ses côtés toutes les semaines dans On n'est pas couché. Avant de co-présenter avec lui, on est en direct. On vous a vu également dans les grandes soirées politiques comme l'émission politique, notamment à l'occasion de la campagne présidentielle. Et là, vous allez présenter demain soir ce qui est annoncé comme l'émission la plus attendue de la rentrée. Vous allez occuper tous les samedis soirs cette case emblématique du samedi soir de France 2, autrefois occupée par Ruquier et auparavant Partir et Ardisson dont tout le monde en parle. On sait peu de choses de la future émission, sinon qu'il y aura un invité permanent, Christophe de Chavannes, et il est là aussi. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut vous présenter? Star de la télé des années 90, 2000, 2010, souhaite déjà rire Léa Salamé, Coucou c'est nous, Ciel mon mardi, Nice People, Des Jeux, La roue de la fortune, Famille en or. Après 2 ans d'absence, vous étiez revenu à la télé en juin 2021 sur C8 pour un jeu à prendre ou à laisser qui n'est pas revenu à la rentrée. Et là, c'est presque
oui,
une mise...
C'était signé pour 2 semaines. Il n'y avait rien de prévu d'autre.
Je ne vous le reproche pas. C'est presque une mise en abîme car vous n'avez pas été laissé là. Vous avez été pris et pas qu'un peu. Votre actualité à tous les deux, c'est Quelle époque ? Ça sera tous les samedis soirs en deuxième partie de soirée. C'est toujours une émission d'accueil, un melting pot dans la lignée de ce qu'avait créé Ardisson puis repris par Laurent Ruquier. C'est bien ça ?
Absolument. De ce point de vue-là, on se passe complètement dans la filiation d'Ardisson et de Ruquier. Moi, c'est une case que j'ai toujours regardée. Quand j'étais jeune, je regardais Ardisson tous les samedis soirs. Ensuite, j'ai été chroniqueuse chez Ruquier dans On n'est pas couché. Puis j'ai été sa coprésentatrice. Et j'aime cette liberté qu'il y a sur cette case-là du service public. C'est pas le cas partout sur le service public. Mais là, depuis 25 ans, il y a une couleur de liberté, d'impertinence. Il se passe quelque chose, une forme de transgression. Et un peu une odeur de soufre que j'aime bien, qui m'attire. Et voilà, et donc là, on va voir ce qu'on va donner.
Alors avant qu'on détaille l'émission, il faut raconter la création de votre binôme. Léa Salamé, c'est vous qui avez eu l'idée de faire venir Christophe de Chavannes.
Absolument.
C'était un ami à vous ou c'était un parfait inconnu, sinon à travers l'écran ?
Ah mais complètement inconnu. On s'est croisés une fois dans une soirée pour le sida, mais on s'est croisés 2 minutes, on s'est dit bonjour, au revoir. Je ne l'avais jamais vu. Comment ça s'est connu ? Vous savez, vous connaissez la genèse, c'est-à-dire que Laurent Ruquier a décidé d'arrêter l'émission.
Ouais.
Je l'ai regretté, mais maintenant je l'ai accepté. Voilà, et on s'est retrouvés avec mon producteur en se disant qui on aimerait avoir. Il faudrait quelqu'un qui, à la fois, mette le feu et à la fois ait un regard sur la société. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas uniquement un amuseur ou un animateur, on cherchait quelqu'un
sniper.
Surtout pas un sniper, c'est plus l'idée
bien.
Du moment.
C'est plus l'époque.
Et c'est pas ce qu'il est. Et on s'est dit, il nous faut quelqu'un qui ait aussi quelque chose à dire. Et là, on s'est mis chacun 3-4 noms sur une feuille et on s'est dit la feuille tous les deux. Et il a prononcé de Chavannes, c'était sur sa feuille à lui. Et j'ai dit tout de suite, mais oui putain, c'est pas con de Chavannes. Et j'ai dit, tu sais quoi, c'est le premier qu'on va appeler. Il a appelé et on s'est rencontrés et ça a matché immédiatement et je suis très heureuse.
Comment s'est passée la rencontre, Christophe ?
Comme elle vient de dire.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai rencontré d'abord, j'ai eu une conversation avec Régis, hein, je vais tout raconter.
Le producteur,
oui. On s'est rencontrés et puis après, voilà, j'ai rencontré Léa, effectivement. Et là, c'était, pour moi, c'était tout de suite sans problème. Après, je me suis un petit peu inquiété de savoir si ça avait fait la même chose de l'autre côté. Régis
si m'a
dit
juste,
oui.
Ouais. Donc, c'est pas juste, si seul dans ton kiff.
Ça, quand c'est unilatéral, c'est moins fun, hein, déjà.
Alors, il faut être deux, il faut même être trois. Est-ce que la chaîne a accepté tout de suite, a validé tout de suite le nom de Christophe de Chavannes ?
Oui, tout de suite.
On n'a pas encore parlé de la mécanique de l'émission et du décor. Ce sera un joyeux mélange entre des hommes et des femmes politiques, des stars du showbiz, des auteurs, des personnes de la société civile, des sportifs. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un lieu de rencontre. Voilà.
On écoute la bande-annonce.
Pas de samedi soir sur France 2 sans un talk-show spectaculaire, drôle et festif. Enfin, on l'espère. Dans Quelle époque ? On ne refera pas le monde, mais on prendra le pouls de la société et on donnera notre avis. Quelle époque sera un lieu de rencontre, de débat avec des invités de tous horizons. Et à mes côtés chaque semaine, Christophe de Chavannes.
Oui, c'est exact. Oui, tout à fait. Et en ce qui me concerne, je serai une espèce d'invité, mais un petit peu tout le temps, vous voyez, comme une espèce d'invité permanent, comme tu dirais. Un petit peu son bâton de berger. Hein.
Mon invité permanent, et puis celui qui ne me quitte plus jamais, j'ai nommé Philippe Cavrivia.
Ouais, alors j'étais en train de visser le décor. On essuie les plâtres, là.
Ouais. Voilà. L'humoriste permanent.
C'est ça.
Voilà.
Je rentre, je sors. Très surfait.
Intermittent. Très surfait.
Très surfait.
À samedi.
Alors vous ne serez pas intermittent, comme dit Cavrivière, vous serez permanent. Mmh. C'est quoi dans votre esprit un invité permanent? Mais
c'est mon idée en fait, c'est parce que il y a une patronne de l'émission, peu importe qu'elle soit féminine ou pas, d'habitude c'était moi, mais là, c'est une vraie nouvelle aventure à tout point de vue, c'est-à-dire psychologiquement, il faut que je me mette dans le truc. Je suis très content parce que j'ai quand même 2-3 ans de plus qu'elle, et donc je peux éventuellement lui filer 2-3 coups de main. Et moi, je suis assez pour ce truc de transmission. J'adore ce métier, j'aime beaucoup mon métier. Je ne suis pas toujours fan de voir comment il est fait ici ou là. Et donc, le fait d'avoir Léa, qui a, indépendamment de toutes ses qualités intellectuelles, peut-être lui donner un ou deux petits trucs de qui sont à moi, quoi. Voilà.
Vous avez dit comment vous serez psychologiquement, comment vous serez positionné géographiquement. Serez à côté, vous serez en face, loin, il y aura des invités entre vous.
Oui, je serai plutôt en face pour qu'on s'ait à l'œil. Et moi, je ne suis là que comme un invité permanent, ce qui me permet d'avoir la légèreté que j'espère que j'aurai, peut-être pas tout de suite,
mais... Et la liberté.
Et la liberté d'être comme je le suis quand je suis invité quelque part.
Dernière question au sujet du positionnement. Comment serez-vous positionné politiquement? Je vous pose la question parce qu'à nos confrères de France Inter qui vous demandaient de vous parler, vous a répondu que vous aviez toujours voté à gauche, je vous cite. Est-ce que ça va s'entendre ou est-ce que vous allez garder vos opinions pour vous? Parce que c'est aussi une émission d'humeur.
Bah, la preuve, c'est que j'ai toujours voté à gauche et que tout le monde est sur le cul. Donc,
tout le monde est sur le cul depuis qu'il a dit ça sur France Inter. Voilà. La première étant moi. Genre, jamais j'aurais dit que tu votais à gauche, toi. Donc il vote à gauche et moi à l'extrême droite, ce sera bien.
En fait, c'est le nouveau schéma, mais le vrai. Parce qu'après tout, j'en ai plus rien à foutre, je vais être transparent. Je suis un honnête homme, je suis bienveillant, j'ai rien à cacher. Donc le fait d'aller avec Léa et d'être vraiment moi sans posture, c'est encore mieux.
On l'a entendu dans la bande-annonce, il y aura également l'humoriste Philippe Cavrivière, avec un rôle accru par rapport à ce qu'il faisait la saison dernière dans On est en direct. Il va faire quoi, Cavrivière?
Il va revenir plusieurs fois. Il va rester aussi parler avec les invités. Philippe Cavrivière, je suis très heureuse qu'il a accepté de rester avec moi parce que il a eu plein de propositions à la fin de l'année dernière. Je pense deux l'a fait littéralement exploser. Jusque-là, c'était l'homme qui écrivait les textes de Cantlou. Et puis là, l'année dernière, on l'a tous découvert en disant bah, « En fait, il est drôle, il est super drôle, ce gars. » Et il a eu plein de propositions et j'ai trouvé ça très chic de sa part. Et j'en suis très heureuse qu'il ait accepté de continuer avec moi parce qu'il m'a dit cette phrase assez jolie. Il m'a dit « Ton rire m'accompagnait et j'ai l'impression que toi et moi, on va grandir ensemble. » Et c'est un peu ça. Cavrivière et moi, on va grandir ensemble. C'est-à-dire qu'on nous donne... On va voir si on est bon pour grandir ou si on va tomber ensemble. Mais en tout cas, on va essayer de grandir ensemble.
Quelle époque? Ça démarre demain samedi à la télévision sur France 2. On n'a pas encore parlé des invités. Vous avez un sacré nom pour la première. Culture Média continue. Léa Salamé, Christophe de Chavannes avec nous sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Léa Salamé qui présente Quelle époque, ça va démarrer demain samedi. Ce sont les deuxièmes parties de soirée après Ardisson, après Laurent Ruquier, c'est Léa Salamé avec un invité permanent, Christophe de Chavannes, qui est également avec nous dans ce studio. Mm-hmm. Sacré casting pour la première, la liste des invités, dont un nom très attendu. Il y aura Jean-Paul Rouve, il y aura Yann Moix, Laurence Ferrari, Cindy Bruna, Nikki Doll, la drag queen qui avait présenté le concours Drag Race France. Et pour la politique, Léa Salamé, je vous laisse l'annoncer.
Jean-Luc Mélenchon.
Je dis chapeau. Je ne suis pas souvent admiratif d'un casting, mais là, quand même, ma question est la suivante. Comment l'avez-vous convaincu de venir sur le plateau alors qu'il a refusé toutes les invitations depuis que son parti est dans la tourmente depuis mercredi, depuis que le Canard Enchaîné a révélé la main courante suite à la gifle d'Adrien Quatennin sur la personne de son épouse?
Elle a couché.
J'ai couché.
Christophe de Chavannes. Ça démarre bien pour le samedi soir.
J'ai couché avec Jean-Luc Mélenchon, je voulais vous le dire, c'est comme ça que je l'ai pour la première.
La
t'aurais pas dû le dire.
On avait dit ça, mon frère. Je peux pas m'en empêcher.
Tu vois la sincérité, la transparence qui va trop loin. Là. La vérité, c'est qu'on l'avait lancé bien avant tout ça. On l'a lancé à la fin de l'été.
Ah ben justement, Mathilde Panot, qui avait été invitée par l'émission Quotidien, qui devait aller dans l'émission, elle s'est désistée quasiment à la dernière minute, alors qu'elle avait été lancée auparavant. C'était justement le sens de ma question et ma petite admiration.
Eh ben, je sais pas quoi vous dire. Je crois qu'il a envie de parler. Je crois que Mélenchon aime bien faire les premières, contrairement à d'autres qui attendent de voir si c'est bien pour venir, etc. Il aime bien prendre des risques. Très honnêtement,
Moi, je savais qu'il venait il y a deux semaines, donc on était très contents déjà de l'avoir. C'est vrai qu'avec l'affaire Quatennens, il va y avoir un enjeu encore plus grand. Mais attention, Philippe, je tiens à vous dire, moi, des émissions politiques, des interviews politiques, j'en fais tellement tout le temps. Là, on va essayer aussi de faire une interview politique un peu différente avec Mélenchon et avec les autres invités.
C'est-à-dire
des questions un peu séquencées, parler d'autres choses que de l'actualité pure, etc. Et c'est ça aussi qui l'a séduit. C'est-à-dire que ce n'est pas l'interview du matin sur France Inter ou sur Europe 1 ou la grande émission politique de France 2. Là, on va essayer, et c'est aussi ce que, là où je vais me tester moi, c'est de tenter de faire quelque chose de différent de l'interview que je fais quotidiennement. Et c'est aussi ce que j'attends de voir de Chavannes face à Mélenchon. Moi, ça m'intrigue, ça m'intéresse, j'ai envie de voir.
Dernière question au sujet de Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas dit, oh là là, avec tout ce qui se passe, il va annuler ?
Si, bien sûr, j'ai eu peur qu'il annule. Moi aussi, je ne veux pas vous mentir. Bien sûr, j'ai eu peur qu'il annule quand l'affaire Quatennens a éclaté il y a une semaine. Je me suis dit, est-ce qu'il va y aller ? On a appelé son assistante, son attaché de presse, qui nous a dit, il maintient, il y va.
Il y aura également deux personnes moins connues du grand public, voire pas connues du tout. Le père Mathieu et Marco Mouly. Ouais. Qui sont-ils, Christophe de Chavannes ?
Marco Mouly, c'est l'escroc que tout le monde connaît, qui était dans le documentaire de Netflix sur l'arnaque au CO2.
Ah,
ils
oui,
ont
oui,
ramassé
oui.
300 millions.
Le père Mathieu
est un... ça, ce sera mon invité, donc, qui a été choisi par l'ensemble de la rédaction.
Non,
c'est pas ça. Je démarrais par une interview avec un religieux catholique, c'était un peu étrange pour moi. Mais finalement, je trouve que c'est assez intéressant. Il a 1 million de followers sur TikTok. TikTok, c'est assez suivi par mon beau-fils qui a 15 ans. C'est même... ça calme un peu trop. Et donc, c'est intéressant de voir ce qu'un prêtre d'une quarantaine d'années, je pense qu'il a à peu près, même ouais. pas peut-être, fait sur TikTok en ayant 1 million de followers au moment où l'Église est en crise et où 51% des Français ne croient plus en Dieu. Par
mais
exemple.
Voyez, ça c'est l'idée, c'est-à-dire que vous avez des grands noms, Mélenchon, Ferrari, Rouve, et vous aurez aussi dans chaque émission des gens que vous ne connaissez pas et qu'on va essayer de vous faire connaître.
Un mot du décor, je voudrais savoir comment vous l'avez pensé, parce que dans certains papiers, il est décrit comme une table ronde et dans d'autres, une arène. Ce qui n'est pas la même chose.
Bah, c'est une table au milieu d'un public, donc il y a comme une arène autour, et il y a une table qui n'est pas tout à fait ronde d'ailleurs.
Vous voyez très bien ce que je veux dire. L'ambiance de l'émission n'est pas la même, suivant qu'on se dit tiens, je vais me jeter dans l'arène, ou tiens, je vais faire une table ronde.
C'est plutôt une
Quel
table,
va être l'esprit de l'émission ?
Entre les deux, oui. Table ronde et arène, en fonction des moments, franchement, on ne sait pas.
Il y a même une scène qui pourra être utilisée.
Oui, il y aura une scène
un
qui pourra être utilisée. Il y a un grand. C'est le
si
bleu, on a choisi la couleur d'Europe 1 pour, en dominante, ce sera du bleu. Voilà, j'ai trahi mes couleurs.
Le jour où les gens diront, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau votre décor, c'est que l'émission elle est morte.
Ah ouais, d'accord.
Tu vois bah oui, parce que ça veut dire qu'on... Quand tu vas au théâtre et puis est-ce que tu vas voir l'acteur, tu fais putain, il est beau le décor. C'est que la pièce est merdique.
C'est les questions de Mandel, le décor.
Quelle époque succède à On est en direct, qui était en direct, pourquoi ce choix de ne pas la faire en direct, de l'enregistrer ?
D'abord, ce ne sera pas enregistré tout le temps, une fois de plus. Là, il va y avoir la Coupe du Monde de foot. On risque de basculer en direct sur les grands matchs. Et on adore, Christophe et moi, le direct, donc on le fera. Écoutez, depuis toujours, à part l'année dernière, à part On est en direct, cette émission du samedi soir est enregistrée à l'avance. Toute l'époque Barma, Ardisson, Ruquier était enregistrée à l'avance et enregistrée le jeudi. Là, on enregistre le vendredi soir. S'il se passe un truc en direct le samedi, on repart en direct.
Est-ce qu'on va découvrir une nouvelle Léa Salamé ? Je vais préciser le sens de ma question, Léa. Vous avez fait cet aveu, c'était en Télémag, il y a 2 semaines. Le plus souvent, de plus en plus souvent, dites-vous, mes proches me disent « c'est marrant, t'es hyper sympa et drôle dans la vie, pourquoi ça se voit pas à l'antenne ?» Qu'est-ce qu'on va voir à l'antenne ?
Ouais, je me suis un peu survendue. qu'est-ce qu'on va... Écoutez, je vais essayer de voir. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais journaliste. 100% journaliste, 1000% journaliste. Je n'arrête pas d'être journaliste. Tu l'es jusqu'à la mort. Mais je vais essayer de voir si je suis capable d'être animatrice. C'est autre chose. C'est un truc en plus. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Vous le verrez à la télé demain soir. Et ensuite, si la chaîne me laisse un peu de temps pour montrer quelque chose de moi.
Déjà, si vous êtes à l'antenne, comme vous êtes dans ce studio ici, c'est une autre Léa que celle de l'émission politique.
Bah écoutez, je vais essayer de me déboutonner. Je ne sais pas si j'ai le truc ou pas. Je vais essayer.
Vous parliez d'expérience, Christophe de Chavannes. Je voudrais partager le point de vue que vous avez dû lire d'Alain Marchal, qui est sur BFM TV. Il a commenté votre arrivée sur cette case. Il a dit, ça dit une chose, c'est que c'est une personnalité qui correspond à l'âge du public qui continue de regarder ses émissions en direct tard le soir. Christophe a la soixantaine, le public des émissions talk show de direct un peu sociétal. C'est pas la jeunesse, c'est pas les 25-40 ans. Christophe de Chavannes, ça va attirer les 45, 50, 55 ans et plus.
Bah, c'est-à-dire que les 20-25 ans, déjà, il y en a assez peu qui me connaissent, à part ceux qui regardent les rediffs sur Internet ou les bêtisiers ou les machins. Maintenant, je suis pas à l'abri quand même de faire venir, comment dirais-je, les femmes, les pauvres, qu'on appelle les ménagères. L'audience des ménagères sur le Capitaine Marlowe était augmentée de 30% le jour où j'y étais. Donc,
mais
je
oui,
me
mais
dis,
les
tiens,
femmes, vous voilà, savez pas,
les
ça,
femmes
Philippe,
aiment bien, vous savez.
Bien sûr. Les femmes.
La FRDA. La FRDA de moins de 5 ans,
on donne les femmes aiment bien,
tous les jours. La femme responsable des achats de moins de 50 ans. Autrefois,
ouais,
on appelait la ménagère.
Oui, oui, bah c'est pour ça que je dis
bien,
les pauvres.
Hein, elles t'aiment et tu leur
et
rends
je
bien.
Les aime beaucoup, oui. J'ai énormément de respect pour les femmes en ce moment. Elles en ont besoin en plus.
Autre question, la même pour Léa Salamé.
Est-ce que je vais ramener des mecs?
Pas du tout, pas du tout. La plupart des émissions, quand elles se lancent, elles tentent de rajeunir l'audience et c'est bien normal. Vous aurez pu avoir un petit jeune ou une petite jeune à vos côtés.
Eh bien alors là, je vous le dis sans vous donner le nom, qu'il y aura un petit jeune à mes côtés et même une petite jeune. Mais ça, il faudra regarder samedi soir pour découvrir qui sont les... Parce qu'il n'y a pas que de Chavannes et Cavrivière, vous verrez, vous aurez la surprise de voir un petit jeune qu'on a envie de faire découvrir, qu'on a envie de faire monter, et une petite jeune, mais j'en dis pas plus.
Qu'on verra toutes les semaines.
Yep.
Vous serez tous les samedis soirs, tous les deux, dans quelle époque? France 2, 23h20, l'horaire sera fluctuant. Mais
là,
c'est
23h10.
Deuxième partie de
23h10,
soirée.
23h10, la première. Hein. Quoi, oui, ce serait con de louper les 10 premières minutes.
Ouais. Merci beaucoup, Léa Salamé. Merci beaucoup, Christophe de Chavannes.
C'était un plaisir.
Ici, dans les studios d'Europe 1. Merci à vous.
Merci à vous.
On se retrouve dans un instant avec Sacha Nokovic pour sa chronique hebdomadaire autour du sport et des médias. Oui, on est vendredi. Et puis évidemment, Bruno Donnet, comme tous les jours, pour ses télescopages. Cette semaine, il a découvert la fatigue informationnelle et depuis, il est totalement épuisé. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, Sacha Nokovic du journal L'Équipe pour sa chronique sport, médias hebdomadaire. Aujourd'hui, il sera question des droits télé de la Ligue 1 qui pourraient changer de chaîne et du droit à l'image avec Mbappé qui a fait plier la fédération. Mais avant cela, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous recensez ici les aspérités médiatiques. Mais le vendredi, vous aimez venir en dresser le bilan. Et cette semaine, vous avez été très intéressé par la mise en évidence d'un phénomène totalement nouveau.
Oui, un phénomène préoccupant, Philippe, dont je ne soupçonnais pas qu'il avait été mis en évidence scientifiquement et que j'ai découvert lundi sur TMC dans la voix d'un chercheur de la Fondation Jean Jaurès.
La fatigue informationnelle.
La fatigue informationnelle. Alors jusqu'ici, je croyais être le seul à éprouver aussi régulièrement une profonde lassitude devant la mise en scène de l'information. Mais finalement, non.
Ce phénomène, il toucherait plus d'un Français sur deux. Aujourd'hui, tu as 53% des Français qui souffriraient de ce symptôme.
Nous sommes légion à en souffrir. Alors, eh bien, alors j'ai décidé de braquer mon télescope sur l'actualité de la semaine, de la passer au miroir grossissant, et je me suis aperçu qu'en matière de fatigue informationnelle, il existait en fait trois formes de la maladie, trois pathologies très distinctes, puisque cette grosse fatigue touche à la fois ceux qui reçoivent l'actualité, ceux qui la font, mais également ceux qui nous la raconte. Alors, pour ce qui concerne ceux qui la reçoivent, la meilleure illustration m'est arrivée d'Angleterre, précisément des funérailles de la reine.
Jusqu'à 2 millions de spectateurs, jusqu'à 4 milliards de téléspectateurs, c'est le chiffre qui a été annoncé.
Car si l'audience planétaire de cette cérémonie a été colossale, j'ai tout de même dégoté nombre de fatigués, lassés, par ce barnum médiatique totalement incongru. Et le premier fut d'ailleurs un Anglais, Sissi, repéré lundi sur l'antenne de CNews.
Doit-on rester devant un cercueil pendant 24 heures? Moi, je ne pense pas.
Mais la meilleure, je l'ai entendue sur France 5 dans l'émission C'est dans l'air, qui a eu la riche idée d'inviter la grand reporter de l'Express, Marion Van Runtergame.
On fait une cérémonie d'une importance mondiale, comme une star d'un autre monde, à quelqu'un, finalement, qui est l'héritière d'une richesse, d'une des plus grandes fortunes mondiales, sans aucun mérite, par le seul mérite de l'héritage et de la naissance.
Ensuite, je suis donc allé tendre l'oreille du côté de ceux qui font l'actualité, du côté des héros de l'info. J'ai ainsi découvert que Vladimir Poutine et ses déclarations toujours plus va-t-en-guerre.
Afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
Avait réussi à épuiser sa propre population au point que certains sont descendus cette semaine dans la rue pour y manifester à l'image de cette femme incroyablement courageuse qui, foulard sur la tête, est allée d'elle-même au devant des caméras qui filmaient l'événement pour y hurler sa colère.
Nous n'avons pas peur. Nous avons la haine de ce régime qui veut tuer nos enfants. Je ne veux pas que mon enfant de 18 ans meure. Je veux qu'il vive.
En Iran, Mahsa Amini, 22 ans, elle, ne portait pas le foulard. pas aussi bien en tout cas.
Arrêtée à Téhéran le 13 septembre par la police des mœurs parce qu'elle portait mal son voile.
Elle en est morte, tuée par des policiers. Seulement voilà, depuis, des centaines d'Iraniens manifestent, eux aussi, devant les caméras du monde entier pour dire leur immense fatigue et crier leur colère avec un mot d'ordre. Abat la dictature. Enfin, et pour terminer, Philippe, je me suis donc tourné vers ceux qui nous racontent l'actualité, vers les journalistes. Et là, en matière de fatigue informationnelle, je vous ai déniché un champion. Un gars visiblement au bout du rouleau, Pascal Praud, qui, sur CNews mercredi, a bien cru avoir mis la main sur une perle en provenance du ministère de l'Environnement.
C'est ce qu'a dit aujourd'hui Madame Agnès Pannier-Runacher, qui, à chaque fois qu'elle dit collecteur. Elle a dit cette chose absolument incroyable. Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. Mais j'ai cru que c'était de Gorafi, moi.
Problème, cette déclaration n'était pas issue du Gorafi, non, mais d'un compte Twitter parodique, baptisé, excusez du peu, ministère écologie déserté, parodie. Du coup, je me suis demandé si cette jeune femme, entendue sur le canal 27 de France Info, n'avait pas un tout petit peu raison.
Nous, journalistes, devons-nous remettre en question notre façon de travailler ?
Et puis, j'ai finalement répondu non. Non, surtout, ne changez rien les gars, car des journalistes fatigués, ça peut être hautement comique. Figurez-vous, Philippe, que j'ai découvert grâce à l'édition Oise du Parisien aujourd'hui en France, à la fois la relou de la semaine et le titre de presse le plus comique. L'information s'est déroulée au sommet de la hiérarchie de la gendarmerie et voici ce qu'a titré le journal. La colonelle Muriel Soria a pris la tête des 1400 gendarmes de l'Oise. Eh oui, elle a pris la tête de 1400 personnes d'un seul coup, étonnez-vous. Après ça, qu'on nous parle de fatigue informationnelle.
Merci beaucoup Bruno Donnet, je ne peux que vous conseiller un bon week-end de repos.
Sans prise de tête.
Sacha Nokovic, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste à l'équipe, tous les vendredis vous décryptez pour nous l'actu du sport et des médias. Aujourd'hui vous nous parlez de l'annonce faite hier par Vincent Labrune, c'est le président de la Ligue de football professionnel, la LFP, lors du festival Demain le Sport. L'appel d'offres des droits télé de la Ligue 1 sera lancé dans un an et ça change quelque chose.
Bien sûr, donc ce sera exactement à l'automne 2023. C'est-à-dire à 9 mois de la fin du contrat en cours avec Amazon, Canal+, et Free. Et c'est vrai que depuis un peu plus d'un an, on s'habitue à ce nouvel acteur Amazon. Je crois que vous avez un abonnement, Philippe.
J'ai tous les abonnements, moi, voilà. pour rien rater. C'est horrible et j'arrive plus, je ne sais plus lequel annuler, parce que je me dis, ça se trouve, l'année prochaine, celui que j'ai annulé, il va fonctionner à nouveau.
Et bien, c'est possible. Donc, on s'habitue tout doucement à Amazon, qui a 80% des matchs, mais peut-être que nos auditeurs vont devoir changer à nouveau à partir de l'été 2024. On aura donc la réponse dans un an.
Alors, on sait qu'il y a des tensions et même un procès entre la Ligue et Canal+ en ce moment. Est-ce que la chaîne cryptée va participer à ces enchères ?
Ça fait partie des grandes questions qu'on a. C'est vrai qu'on sait que Canal ne supporte pas de payer plus cher qu'Amazon pour moins de matchs et fait croire depuis un moment qu'elle n'a pas besoin forcément de la Ligue 1. Donc ce sera la grande question. L'autre, si elle n'y va pas, est-ce que son partenaire Beansport décidera d'être solidaire ? Là, ce serait une terrible nouvelle pour la Ligue qui perdrait deux clients d'un coup, forcément. Et puis Amazon, on l'a dit, qui paye aujourd'hui seulement, entre guillemets, hein, 250 millions d'euros par an pour 80% des matchs, est-il prêt à augmenter son offre ? Là encore, on s'interroge. Et enfin, la grande question, est-ce qu'un autre GAFA, un géant du numérique, comme Apple par exemple, sera l'invité surprise ? Parce qu'il y a toujours un invité surprise dans les appels d'offres.
Voilà, Apple et le foot, c'est dingo. Pour séduire les chaînes et pour séduire les plateformes, la LFP, la Ligue, compte sur quoi alors ?
Avant tout sur le PSG, évidemment, qui continue de briller, en tout cas l'espère, et surtout toujours avec Kylian Mbappé au moment de la vente des droits dans un an. Mais elle veut aussi pouvoir dire ça. I'm sexy and I know it. Donc, proposer un produit plus sexy, forcément pour séduire un nouveau public, notamment plus jeune, plus féminin. C'est en tout cas l'ambition annoncée par Vincent Labrune hier.
On doit promouvoir un spectacle différent, un sportainment qui ne parlera pas seulement foot à une base historique, mais qui ira vers un métissage entre le sport et le divertissement en étant moderne et innovant dans son traitement. En résumé, on doit développer une culture spectacle.
Vous dites que la Ligue a un objectif caché, dites-nous lequel.
C'est évidemment ça. La monnaie, l'argent, le flouze.
DJ Sacha, au platine.
Voilà, on sait que l'ensemble des contrats télé, aujourd'hui, nationaux et internationaux pour la Ligue 1, c'est à peine plus de 700 millions d'euros par saison pour la Ligue 1, bien derrière les cadors européens. Donc, en 2028, la Ligue a visé un objectif de 1,8 milliard. Donc on se dit que là, pour l'objectif intermédiaire, un bon milliard, ce serait déjà pas mal.
Un bon milliard. Alors après les droits télé, les droits à l'image, au milieu de toutes les affaires qui tournent autour de l'équipe de France de foot, on ne va pas tout détailler, il y a ce sujet du droit à l'image porté cette semaine par Kylian Mbappé. Vous vouliez revenir dessus ?
Oui, c'est une première quand même dans l'histoire. On a eu Zidane, Ronaldo, Messi, plein de légendes, mais aucune n'avait remis en question ce sujet. C'est en gros les conditions de la somme touchée par les joueurs pour associer leur image à celle d'un sponsor collectif. Mbappé l'a fait et tout commence en mars dernier lorsque la star des Bleus décide de boycotter une opération marketing avec les partenaires de l'équipe de France avant d'expliquer son choix.
Le football, il a changé. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard.
Et rebelote, ce lundi, Mbappé menace de nouveau de boycotter les partenaires. Il ne veut pas associer son image à certaines marques, notamment comme la Malbouffe, le KFC. Et dans la soirée, la Fédération française de foot plie et s'engage à réviser dans les plus brefs délais la convention qu'il allie à ses joueurs. Dès le lendemain, un libéral, vice-président de KFC, réagit vivement sur le site Sport Business Club.
KFC, c'est les fast-food à base de poulet. Hein.
Voilà,
fried chicken. Voilà, free. Il faut le dire.
C'est ça, voilà. Et il réagit au micro de Sport Business Club. On a récupéré l'enregistrement qui n'est pas génial. Hein, mais
ça, c'est Alain Béral, le vice-président de KFC. Tendez l'oreille.
Nous, on accepte de payer pour revoir de l'image, de ce pour qu'on paye. Donc, c'est une crise de, peut-être de jeunesse, je ne sais pas, c'est un caprice. Kylian, lui, dit « moi, je ne veux pas faire », ben oui, ça pose un problème.
Alors, une crise de jeunesse, dit le patron de KFC, un caprice carrément.
Carrément, sauf que la marque KFC s'est rapidement désolidarisée de son vice-président. Ouais, il ne fait jamais bon de se fâcher avec les stars, même quand elles ne veulent pas de vous.
Et alors, Philippe. On a appris que Mbappé ne voulait pas non plus associer son image au site de Paris en ligne. Et là aussi, est-ce qu'il y a eu une réaction d'un sponsor ou pas du tout?
Bah, pas encore. En revanche, je suis allé fouiller un peu, regarder de près la campagne de sponsoring du PSG, qui est l'employeur principal de Mbappé, et deviner sur quoi je suis tombé. Un Kylian Mbappé sur une publicité pour 1xBet, nouveau partenaire du club. Non seulement site de paris de sportifs en ligne, mais en plus décrié pour des pratiques douteuses révélées par la presse anglaise, comme publicité proposant la diffusion pirate de matchs ou promotion de casinos en ligne avec des croupières au sein nu. On vous l'a dit, Philippe.
Le football, il a changé.
Il a changé.
Vraiment. Et puis un mot, parce qu'il y a du nouveau, on avait parlé la semaine dernière dans l'affaire Pogba. Mathias Pogba, qui menaçait son frère de révélation, il dort en prison.
Oui.
Et vous me dites qu'il a publié une vidéo ce matin depuis la prison. Qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo? Racontez-nous.
Il y a une série de vidéos et de tweets. C'est un robot, soi-disant, qu'il aurait diffusé à sa place. C'est ce qu'il révèle dans les premiers tweets. Et globalement, il explique ce qu'il a déjà dit. Que son grand frère, Paul Pogba, la star des Bleus, a été marabouté. Que depuis 2018, il est sous l'emprise de ce marabout sorcier. Ça n'a pas changé. On attend la suite de l'affaire et de l'enquête surtout.
Vous avez juste un mot. Quand on est en prison, on n'a qu'une envie, c'est de sortir de là. Enfin, j'imagine. Mm-hmm. Si vous continuez à envoyer des vidéos, c'est pas le meilleur moment.
Non.
Moyen.
Il y a une question à se poser. Il y a marqué que c'est envoyé depuis un robot, mais on voit que c'est l'application Twitter. Et quand c'est une application Twitter, c'est forcément un humain. Donc c'est soit Mathias Pogba depuis la prison, soit une autre personne.
Soit un ami de Mathias Pogba.
C'est possible.
Vous savez ce que disait Charles Pasqua?
Non.
Quand on a des amis comme ça, on se passe très bien, Benny. Merci beaucoup, Sacha Nokovic. À vendredi. En attendant, on peut vous lire chaque jour dans l'équipe Culture Média. Ça continue évidemment sur Europe 1. Après les infos de 10h, nous serons avec l'animatrice et dorénavant comédienne Daphné Burki. On va parler de cette série Cher Tendre sur France 5 sur un sujet absolument passionnant. On sera également avec l'héroïne principale Angèle Metzger. Et puis dans les indispensables, Olivier Benkemoun nous parle du remake du dessin animé culte de Disney Pinocchio. Et Laurent Mariotte, c'est pas un mensonge, va nous alerter sur les produits ultra transformés pour nos enfants et nos ados. Rien à voir avec des croquettes de poulet industrielles. Jean-Luc Lemoine sera avec nous pour sa session de rattrapage. À tout de suite.